gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, frontière.
Marie Valin.
Frédéric Spielmacher.
Antoine Sénéchal.
Pierre Salmon.
Anélie Prudor.
Frontière, limite, barrière, lieu de passage.
Confluence hispanique.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Exterior d'Espagne.
Un programme proposé par Emmanuel Zahr. Amis auditeurs, bonjour. Deuxième programme de la série Confluence hispanique frontière. Aujourd'hui, nous accueillons le chercheur et membre scientifique de la Casa de Velázquez, Pierre Salmon. Pierre Salmon nous parle ici des frontières et des trafics d'armement, de la circulation d'armes également durant la guerre civile espagnole. Il s'intéresse beaucoup également aux personnages de l'ombre qui se cachait derrière ces trafics. Nous découvrirons avec Pierre Salmon une classification originale de types de frontières diverses. Monsieur Pierre Salmon, votre sujet de recherche est donc le trafic d'armement, la vente illégale d'armement et la circulation des armes durant la guerre civile espagnole. Et donc, de facto, vous nous ramenez aux frontières physiques.
Naturellement, il y a une première frontière qui va entrer en jeu dans ce phénomène. On va penser aux frontières étatiques. Il s'agit, de, comme vous le dites, de circulation d'armement, de flux d'armement. Et donc, la frontière peut être pensée comme un outil de contrôle pour un État. En France, durant la guerre civile espagnole, il y a un front populaire qui va justement essayer d'influer sur le cours de ces circulations d'armes, et donc d'ouvrir, de fermer ses frontières, d'accélérer ses flux à ses frontières, tant d'entrée sur le territoire français que de sortie. Donc naturellement, oui, ce sont les premières frontières, les frontières matérielles, on pourrait qualifier de matérielles, auxquelles on peut penser, oui.
Alors, quand on pense frontières, on pense, moi je me remets à mes anciennes études, aux frontières de jure, aux frontières de facto, aux frontières... Et vous, vous établissez une classification, des catégories de frontières qui m'ont beaucoup attiré l'attention. La frontière filtre, par exemple, la frontière accélératrice, et après, dans un second temps, on va parler d'un autre type de frontière que vous avancez, mais pour les gens qui se déplacent et les gens qui participent à ce flux d'armement. Pour l'instant, je voudrais simplement comprendre ce que c'est qu'une frontière filtre.
Alors, l'État, quand il va essayer d'influer sur le cours de ses frontières, sur le cours de ses flux d'armement, va avoir plusieurs postures. La frontière filtre, c'est une posture qui peut être assez ambiguë à analyser, puisqu'il va s'agir pour un État de filtrer, à proprement parler, ses flux d'armement, d'en laisser passer quelques-uns, d'en empêcher certains flux d'armement qui peuvent provenir de certains pays. En l'occurrence, pour la guerre civile, il y a un filtrage qui sera assez clair, c'est-à-dire qu'à certains moments, l'aide pour les républicains espagnols pourrait être effective, alors que celle pour les franquistes ne le sera pas du tout. Là, il y aura un filtrage, en l'occurrence, de cette aide pour les franquistes. Ça, c'est un moyen de filtrage. Il y a un filtrage dans le temps, il y a un filtrage aussi qui peut être à différentes échelles. C'est-à-dire que certains administrateurs vont choisir dans certains ports d'empêcher les arrivées d'armes, d'autres dans d'autres ports, pour des mêmes flux d'armement, accepteront ces passages. Nous, il s'agira de filtrer. C'est une première position. Vous parliez aussi de frontières accélératrices. Là, c'est une autre position. Il y a des flux d'armement qui vont exister. La France, il faut le rappeler, pour la guerre civile espagnole, avant tout un lieu de passage de ces armements.
Oui.
Il ne s'agit pas d'un lieu de départ. Très peu, ça existe, mais c'est peu le cas. Donc, pour ces flux qui vont venir de différents pays, à certaines époques, selon le contexte diplomatique, il s'agira d'accélérer certains flux pour faire une pression. On peut penser, dans le contexte, faire une pression sur Hitler par rapport à certains accords internationaux. Il s'agira là d'accélérer les flux d'armement. Enfin, il y a une dernière posture, on va parler de frontières barrières, pas dire frontières front, la limite. Il s'agira aussi d'empêcher, de fermer, et ça existe en France pour des flux, même pour les républicains, d'empêcher toute arrivée d'armes sur le territoire français, ou en tout cas, à défaut, leur sortie vers le territoire espagnol. Là, c'est une autre posture, c'est-à-dire qu'on ferme totalement.
Ça a été la posture du comité de non-intervention.
Tout à fait. Il y a eu un comité de non-intervention, donc en France, un gouvernement de Front Populaire demande une mise en place d'un comité de non-intervention. C'est un comité international qui réunit presque toutes les puissances européennes, y compris l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'URSS pour un temps, et qui a pour but d'empêcher toute arrivée d'armes. Et pour cela, va mettre en place un contrôle maritime et un contrôle terrestre des flux d'armement durant quelques mois. Donc il s'agit là vraiment d'empêcher et non plus de filtrer ou d'accélérer les flux d'armement.
Message écrit à la main du général Francisco Franco autorisant Luis Antonio Bolin à prendre les contacts qu'il jugera nécessaires en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne pour fournir les insurgés contre la République d'armement lourd, avions, etc. Luis Antonio Bolin était haut fonctionnaire de la Deuxième République. De famille d'origine étrangère, il était établi à Malaga, ou sa famille était établie à Malaga. Son oncle se trouvait être l'archevêque adjoint de Westminster. Le document est inséré dans le documentaire de la télévision espagnole « Estalla la guerra ». Un documentaire de 1984.
Autorizo a don Luis Antonio Bolín para gestionar en Inglaterra, Alemania o Italia la compra urgente para el ejército español no marxista de aviones y material. El general jefe, Francisco Franco.
Pourtant, l'armement circule. Il circule plus du côté franquiste, du côté national, j'allais dire. Avec des arrivées d'armes très conséquentes de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie mussolinienne particulièrement. L'Union soviétique approvisionne les républicains en armement, mais l'Union soviétique, c'est quand même loin. C'est un pays qui n'a pas la puissance, même alors, de l'Allemagne. Et qui Allemagne et Italie ensemble, ça contrebalance l'apport soviétique. Et donc, les républicains n'ont pas d'autre choix que de s'adresser aussi au marché parallèle, au marché noir des armements. Parce que des Adnan Khashoggi, il y en a eu tout le temps. Je ne parle pas de son neveu, je parle de lui. Et ces personnalités, vous en avez étudié au moins une, à fond, au moins, ce que vous m'avez avoué, entre guillemets. Mais comment on devient marchand d'armes? Quelle capacité il faut avoir? Quelles compétences il faut avoir?
Alors, c'est une bonne question. Il y a justement ce marché international des armes. Et les républicains vont se tourner vers des acteurs qui ont une expérience ancienne au début du conflit notamment pour justement se fournir ces armes. Il faut rappeler rapidement que l'Espagne était un pays neutre, pays sous-armé et qui n'avait pas d'expérience dans le domaine des armements. En tout cas, très peu à cette époque. Il s'agit de se tourner donc vers certains acteurs internationaux et ces acteurs, ils vont avoir une expérience propre, antécédente à la guerre civile. Donc j'ai travaillé sur une personne, sur Michael Rosenfeld, sur lequel on reviendra peut-être, sur d'autres personnes également, il y a des choses qui se dessinent. Il y a plusieurs choses qui vont se dessiner par rapport à ces marchands internationaux. Il y a des compétences déjà qui sont primordiales, ce sont des compétences langagières, il faut maîtriser plusieurs langues. Il s'agit pour ces personnes souvent de personnes qui ont connu plusieurs états, qui ont pu être expulsés pour des raisons ethniques, politiques, pour différentes raisons. Hein. On a une recomposition après la Première Guerre mondiale, des traités internationaux avec une recomposition frontalière, et beaucoup de personnes vont être expulsées, vont former le lot des apatrides, ils n'ont plus de patrie. Et dans ces personnes, certaines personnes, souvent de haute classe sociale, vont développer certaines compétences aussi financières en bougeant dans plusieurs pays, vont travailler dans certains réseaux, des compétences dans les milieux des armements, et vont être aussi des personnes souvent assez proches, on peut l'observer, des milieux de l'espionnage. Souvent même des agents en double qui ont plusieurs casquettes. Donc on va voir, donc c'est des compétences de langage, des compétences financières, des compétences aussi au niveau des réseaux personnels en fait, qui vont arriver dans ces milieux de l'armement, aussi dans les milieux diplomatiques, donc des personnes très bien implantées.
Parce que ces personnes, ce ne sont pas les contrebandiers à l'usage, les contrebandiers du Bastan ou qui sont des paysans, des montagnards. Non, ce sont des gens qui n'ont pas de problème, comme vous disiez, avec les langues, avec l'argent, etc. Et tous ces éléments, langue, argent, réseau que vous citez, fonctionnent comme autant de frontières.
Exactement. En fait, ces différentes compétences de certains acteurs, hein, en l'occurrence ces trafiquants d'armes, vont entrer en jeu et vont constituer, par leur bonne maîtrise ou le manque de maîtrise de ces compétences, des frontières. C'est aussi le rôle d'une frontière, c'est comme ça qu'on peut définir une frontière. Mmh. Une frontière, elle existe pour ceux qui ne peuvent pas la passer, et ça peut être autant un obstacle donc qu'une interface, quelque chose qui donne la possibilité d'aller ailleurs. Et donc, pour ces personnes, deux mondes vont se matérialiser. Les petits contrebandiers dont vous parlez, je parle par petits, par l'envergure, le nombre d'armes que ces personnes vont faire passer, qui ont parfois, pour beaucoup, il y a une expérience ancienne au niveau de la langue, des connaissances, mais peu de connaissances politiques de l'autre côté de la frontière, certaines lacunes, en tout cas financières, qui vont pas leur permettre de mettre en place des réseaux structurés, en tout cas dans la durée. D'autres personnes, à l'inverse, eux auront une expérience propre et ce ne seront plus des frontières, ce seront justement une interface, la possibilité de se mettre au service de l'Espagne républicaine, comme ils feront d'ailleurs pour la Chine, pour l'Éthiopie ou pour d'autres conflits à la même époque que la guerre civile espagnole.
Parmi ces personnes dont vous avez suivi la trajectoire, il y a une personnalité qui apparemment se détache, même si elle n'est pas unique, qui est le parfait cas de l'apatride, qui a étudié dans les meilleures universités au gré de ses séjours. Moi, comme je suis assez attirée par les histoires, disons les récits personnels, je vais vous demander de nous en dire quelques mots.
Alors oui, vous faites référence à Michael Rosenfeld.
Absolument.
Ou en tout cas, c'est un de ses noms, parce que preuve de justement de cette identité, de cette personne complexe, il a des noms différents selon certains pays, une orthographe aussi différente selon ses expulsions. Michael Rosenfeld, c'est un archétype, il y en a beaucoup d'autres comme lui. Il a été d'une grande famille russe blanc, c'est-à-dire j'entends ceux qui étaient contre les bolcheviks, qui ont été dans les troupes impériales, qui ont été amenés à quitter la Russie nouvellement bolchevique après la Révolution. Donc il va dans différents pays, il a une expérience dans les grandes écoles militaires du pays, il est très proche de certains grands princes russes. Donc il est déjà bien implanté, il a déjà un certain réseau personnel à son service. Ce même Michael Rosenfeld va aller dans plusieurs pays, Allemagne, France, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Angleterre, États-Unis. Il va y poursuivre ses études dans des grandes écoles, il va aussi après aller dans des grandes banques, dans des très grandes banques dans lesquelles il va parfaire un peu ses compétences financières.
Jusqu'à présent, il n'y a pas un élément qui démontrerait qu'il soit a priori favorable aux républicains espagnols.
Non. Non, non, Michael Rosenfeld, on le sait peu pour lui, mais pour d'autres, il y a beaucoup de personnes qui sont même dans des partis d'extrême droite. Je pense notamment des trafiquants bien implantés en Belgique, où Michael Rosenfeld est quand même dans le côté des Russes blancs. On aurait tendance à penser qu'il serait plutôt contre les républicains par une assimilation entre régime bolchevique, Espagne républicaine, marxiste. En tout cas, ce sont des représentations d'époque. Et non, il n'est pas forcément question d'idéologie, il est plutôt question de personnes qui ont les compétences de mener à bien un trafic d'envergure internationale. Et Michael Rosenfeld a cette expérience, je vous parlais de l'expérience financière, mais petit à petit, il va justement se spécialiser, lui, dans le trafic des armes. Et au-delà de l'idéologie, il aura les réseaux personnels, les connaissances de certains arsenaux nationaux, ce qui pourra servir les républicains espagnols. Et il faut passer sur l'aspect idéologique pour comprendre cette question des armements, en tout cas la question pour le conflit espagnol.
Voilà, alors là, il ne s'agit pas de se dire chercher l'idéologie, mais chercher la finance.
La finance,
et
finance,
peut-être oui. Un peu le goût d'aventure. Non, il n'y a, oui. Il n'y a pas un peu de...
On parle souvent à cette époque d'aventuriers internationaux, de chevaliers d'industrie. On parle, il a différentes appellations, qui qualifient un peu cet aspect. On le voit aussi, cet aspect aventurier, qu'il est difficile à vérifier, à vrai dire, à la lecture des sources, parce que nous n'avons pas les personnes en face de nous, mais même dans les rapports policiers, quels qu'ils soient, les rapports de surveillance français ou espagnols, cette notion, d'aventurier, de personnes pas très stables, de moralité douteuse, ressort énormément. Il y a aussi la question de la morale, du scrupule, que certaines personnes, a priori, peuvent se passer, puisque ce seront aussi ces mêmes types d'acteurs, ces trafiquants d'envergure internationale, qui pourront trahir la cause républicaine en revendant les armes aux franquistes, les armes qui ont été achetées précédemment par les républicains, ou en vendant l'information comme quoi un navire va passer à tel moment par tel détroit pour le capturer ou le couler.
Bien sûr, quand on parle de flux d'armement et de frontières, on pense aux frontières physiques, aux frontières surtout dans le cas espagnol, la frontière avec la France et la frontière avec le Portugal. Mais je suppose que les armements n'entraient pas tous par les Pyrénées ou par la frontière portugaise.
Naturellement. Pour la frontière portugaise, déjà, il a fallu entrer... ce sont des armes qui viennent, pour la plupart, d'Allemagne. Et il a fallu passer par les voies maritimes. Les voies maritimes sont vraiment le lieu où passe la voie des flux d'armement. Il y a des passages qui vont être forcés par la frontière pyrénéenne, de façon plutôt continue à la fin du conflit. Mais il s'agit surtout de voies maritimes, et même pour la France, d'entrer sur une partie du territoire... on pense au port de l'Atlantique, hein, quand les armes viennent de Russie ou d'ailleurs, et de sortie par un port méditerranéen. Ici, il s'agit juste d'un transit international sur le territoire français.
Et dans ce cas, les autorités du Front populaire français détournaient le regard, faisaient semblant de ne s'être aperçus de rien.
C'est la question que se posent beaucoup de personnes, ou en tout cas que plus personne des fois se pose alors qu'il faudrait se la poser. Il y a la question de l'attitude du gouvernement français, gouvernement du Front Populaire, qui vont d'ailleurs être plusieurs de gouvernements de Front Populaire, plusieurs ministres des Finances, plusieurs ministres des Affaires étrangères, ce qui va aussi compliquer la question. En premier lieu, il semblerait que la France a vraiment voulu aider l'Espagne républicaine, puis qu'elle ait essayé vraiment de prohiber ce trafic. Elle a vraiment essayé de le prohiber, au moins a priori jusqu'à l'été 1937. Ensuite, de façon sporadique, elle a aidé ce trafic, elle l'a encouragé même. Elle a même, à un certain moment, organisé le trafic d'armes en appuyant, en laissant une partie de son administration de façon secrètement appuyer ce trafic. On parle de douane, on parle de la police spéciale française et aussi de certains agents du renseignement. Mais elle n'a pas toujours fermé les yeux, et quand elle a voulu le prohiber, elle était parfois même impuissante à le faire, puisqu'il s'agit d'un régime international de transit et qui est réglé par des accords internationaux. On peut pas agir comme ça par rapport à une marchandise, ce qui peut expliquer des fois certaines incompréhensions, mais il s'agit en l'occurrence d'un régime sur lequel on peut seulement agir en prenant une caution si on constate une faute. C'est-à-dire que si on constate que les armes sont bien arrivées en Espagne, à ce moment-là, on peut saisir un acquis à caution. Mais bon, les armes sont arrivées dans tous les cas en Espagne, et parfois ces acquis à caution sont levés par les autorités françaises.
Alors, nous avons parlé de vendeurs d'armes qui sont des vendeurs d'armes pures et dures, c'est-à-dire que l'idéologie passe à un second plan, etc. Mais est-ce que dans votre travail d'enquête, de recherche, vous n'avez pas aussi détecté certains fournisseurs en armes qui avaient aussi des motivations idéologiques, parce qu'on peut penser que de la même manière que des gens venaient se battre en Espagne, des gens pouvaient aussi participer à une aide en termes d'armement.
Naturellement. Pour beaucoup, ça a souvent été une question idéologique. Et si je vous ai beaucoup parlé de cet aspect non idéologique, c'est parce qu'on le présentait souvent sous le seul angle idéologique. Beaucoup ont fait justement opérer un glissement. Je pense notamment au comité antifasciste d'aide qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'humanitaire. Ils vont mettre en place un trafic camouflé avec quelques armes, mais il s'agit au bout d'un moment de beaucoup d'armes, hein, de plusieurs centaines de tonnes d'armes qui seront envoyées par certains comités anarchistes, communistes, en Espagne. Également, hein, on peut penser aux communistes français qui, sur le territoire, jouent un rôle vraiment très important, notamment à partir de la moitié de l'année 1937, qui vont aider à structurer certains réseaux et qui vont participer au transport des armes. Je pense là à la compagnie France Navigation, dont l'histoire est un petit peu connue, qui va participer notamment au convoyage d'armes depuis la Russie jusqu'au port français de l'Atlantique. Donc il y aura une partie idéologique qu'il faut pas sous-estimer, qui existe et qui a été menée pour certains durant tout le conflit. Et on observe d'ailleurs une proximité assez forte entre les envois d'armement et l'engagement dans les brigades internationales, ou du moins dans le système de volontariat espagnol. Beaucoup de personnes opèrent les deux ou successivement l'un et l'autre. Donc il y a une proximité.
Ces armes envoyées par des comités sympathisants de la République sont plutôt des armes qui passent par les frontières terrestres, par les Pyrénées peut-être, ou alors il y a le même cheminement qu'avec les envois allemands, mussoliniens.
En dehors du cas de France Navigation dont j'ai fait état, qu'il s'agit d'un appui pour une aide internationale avec des réseaux d'armement qui viennent surtout du RSS, il s'agit surtout de flux terrestres. Il s'agit surtout de flux terrestres parce que ce sont des armes qui vont être achetées secrètement, c'est-à-dire que les personnes vont masquer le plus souvent le motif de l'achat, vont dire que ce sont des armements pour eux, chacun militant va acheter quelques fusils, ou alors certains producteurs d'armes en Belgique ou en Suisse vont fermer les yeux sur justement l'origine, où on va dire qu'on achète pour l'extrême droite, c'est plus facile pour acheter à cette époque pour l'extrême droite que pour des milices anarchistes en tout cas, et vont transporter ensuite illégalement ces armes d'abord en France, pour ensuite les transporter à travers la frontière pyrénéenne. C'est à ce moment-là où ils peuvent se faire arrêter à la frontière belge, et ensuite à la frontière pyrénéenne, où ils doivent, en tout cas durant une bonne partie du conflit, subir de nombreux contrôles.
L'Espagne et la France n'avaient pas simplement les frontières du nord de l'Espagne en commun. Elles avaient aussi des frontières au niveau de l'Afrique du Nord. Et donc, de la même manière que des militants républicains envoyés en prison à Ceuta et à Melilla se faisaient la belle et se retrouvaient de l'autre côté de la frontière en Algérie, par exemple, des armements pouvaient passer aussi. Ou alors là, on faisait très attention parce que, ce n'est pas la France métropolitaine quand même.
Alors oui, c'est un phénomène qui existe. Il me semble beaucoup plus diffus. Il est plus difficile, en tout cas, la surveillance est peut-être. Ça ressort moins dans les dossiers, en tout cas militaires français. C'est aussi une question des sources mobilisées pour ma part, parce que je mobilise moins les sources des colonies françaises. mais c'est un trafic qui existe, qui est diffus, et les frontières étatiques sont pas clairement tracées. Entre ces pays, il y a beaucoup de groupes nomades qui participent depuis longtemps à des passages d'armes, hein. C'est quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années, et qui, durant la guerre civile, vont faire partie justement de certains passages assez diffus. Il s'agira, en l'occurrence, assez rapidement de passage pour les franquistes, puisque le Maroc est soulevé et une zone favorable aux franquistes dès le début du conflit, mais certains républicains espagnols aussi essayent de déstabiliser le régime franquiste à travers justement certains passages pour les nomades en leur promettant des indépendances. Donc il y a aussi ici un trafic qui est particulier, mais qui existe durant le conflit.
Monsieur Pierre Salmon, je suppose que tout de suite, quand vous avez commencé à défricher le terrain en vous disant il y a matière pour travailler sur cette question, vous aviez certaines hypothèses préétablies. Alors, est-ce que dans votre cas, il y a eu des changements ?
Alors oui, il y a eu beaucoup de changements. Et il y en a souvent, il y en aura toujours, au gré des découvertes archivistiques, des lectures de certains ouvrages historiques, des témoignages peut-être, il y a toujours des découvertes. C'est ce qui est passionnant. Au départ, mon étude qui avait été formée, je m'attendais plutôt à voir quelque chose comme c'est donné dans la mémoire des Françaises, hein, comment les événements peuvent être présentés. Je m'attendais à un trafic communiste, trafic qui a duré pendant tout le conflit, avec une aide étatique durant tout le conflit. Je me suis rendu compte que les choses étaient bien plus complexes que ça, que l'attitude du gouvernement français pouvait changer dans le temps, et que l'aide française dont on parlait souvent n'avait pas été exactement donné pour tous les groupes de la même façon. Certains sont réprimés, d'autres non. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et aussi, il s'agit de comprendre maintenant un petit peu ce qui tisse ces réseaux internationaux. Je m'intéresse beaucoup à ces réseaux sur lesquels on a beaucoup d'informations, sur ces réseaux internationaux, sur la façon dont ils s'organisent entre eux, et ce qui va déterminer l'importance d'un trafiquant au dépit d'un autre. On a souvent parlé de l'argument politique, mais il faudra parler aussi des antécédents économiques, des antécédents justement sur c'est-à-dire de la mobilité antérieure de ces personnes, si elles parlent plusieurs langues, si elles sont amenées à avoir eu aussi des expériences anciennes dans l'armement. Ça va être passer toutes ces données à la moulinette, si vous me permettez l'expression, pour comprendre un petit peu ce qui fait qu'un trafic est plus un trafiquant est plus efficace qu'un autre, finalement.
Oui. En pensant aux trafiquants du Bastan et aux trafiquants en gros, j'allais dire, il y a un moment où vous parlez d'inégalité dans l'illégalité.
Oui.
Je crois que ça résume pas mal la situation.
C'est finalement une problématique qui sous-tend mon travail, c'est d'essayer de comprendre à travers ces différents réseaux d'armement. On parlait aussi des petits contrebandiers, on parle des réseaux des trafiquants d'envergure internationale, on parle de la posture de l'État, des différents gouvernements français. S'il n'y a pas derrière tout ça une certaine forme d'inégalité, oui, dans l'illégalité.
Eh bien, Pierre, je vous remercie.
Merci à vous.
Et je vous souhaite bonne chance dans la suite de vos travaux. Merci. Nous voilà arrivés donc à la fin de ce deuxième programme de la série Confluence Hispanique. Aujourd'hui, notre invité était Pierre Salmon. À très bientôt.